Quelle est la part d'ombre de la démocratie américaine ? Existe-t-il des exemples de présidents des États-Unis, démocrates ou républicains, qui auraient été en contact avec la mafia ? Est-il possible d'avoir une réponse documentée à ces questions ? La réponse est positive et Planisphère reçoit, pour le démontrer, Jean-François Guéraud, commissaire général de la police nationale, auteur de « La mafia et la Maison Blanche » aux éditions Plomb.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Jean-François Guéraud, la Maison Blanche, chacun sait ce que c'est le siège de l'exécutif américain, mais la mafia, ça mérite d'être défini.
Il faut en effet définir le mot parce que c'est un mot polysémique, ambigu, c'est à la fois un nom propre et un nom commun. En tant que nom propre, le mot mafia désigne une organisation criminelle aux États-Unis, la mafia italo-américaine, Cosa Nostra. Il y a d'ailleurs sa maman historique en Sicile, qui s'appelle aussi la mafia, qui est une Cosa Nostra, mais ce sont deux organisations distinctes, même si elles sont liées historiquement. Ça, c'est le nom propre. Mais le terme de mafia est aussi un nom commun qui, en criminologie, permet de désigner des types d'organisations criminelles très spécifiques. Ce sont les organisations criminelles qui ont une sociologie de société secrète. Et il y en a très peu. Et pour rajouter à la complexité de tout ça, aujourd'hui, dans le langage journalistique, le mot mafia est devenu synonyme de criminalité organisée, ce qui est un abus de langage, une hyper-extension ou une hyperbole sémantique qui vient tout brouiller. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est bien d'une organisation criminelle spécifique, la mafia italo-américaine, née aux États-Unis.
Quel est, chronologiquement, l'acmé de l'emprise mafieuse sur la société américaine ?
Alors évidemment, c'est une question centrale, difficile. Je pense que le summum de cette puissance, car on a bien affaire à une puissance criminelle, s'est situé dans les années 60 jusqu'au début des années 70. Et on a aujourd'hui beaucoup de mal à se représenter ce qui était l'emprise de cette organisation criminelle sur beaucoup de secteurs économiques, pas seulement des secteurs illégaux, mais des secteurs légaux, on y reviendra tout à l'heure, le monde de la nuit, le monde des déchets, le monde de l'immobilier. Donc sur beaucoup de secteurs économiques, sous beaucoup de secteurs sociaux, le monde syndical, encore aujourd'hui d'ailleurs, et puis évidemment, sur une partie du monde politique américain au niveau local et au niveau national. Et on peut dire que cette organisation, ces différentes familles, avait en quelque sorte des tentacules, pour utiliser l'image un peu convenue mais assez juste, des tentacules qui lui permettaient de manière réticulaire de toucher de très nombreux secteurs de la société américaine, à la fois en haut, le upper world, celui des élites, et en bas, la société.
Et donc la mafia est un acteur géopolitique au même titre que les États, les firmes, les organisations non gouvernementales.
Oui, alors ce n'est pas le cas de toutes les organisations criminelles. Certaines n'ont qu'un intérêt anecdotique et relèvent de pures questions de police banales et assez folkloriques. Et puis d'autres, en effet, sont des puissances au niveau national ou international, sont des acteurs politiques et des acteurs de la vie internationale.
Jean-François Guéraud, quelle est la part d'ombre de la démocratie américaine ?
Alors, tous les systèmes politiques et toutes les démocraties ont une part d'ombre. Tout ne se situe pas dans la clarté, la transparence, sur scène, de manière pure et parfaite. Il y a toujours une part d'ombre, c'est ainsi fait. Les sociétés ne sont jamais parfaites. Il se trouve que la société ou la démocratie américaine a une part d'ombre assez forte, méconnue et incomprise, et qui tient au fait que, à la fois la violence d'une part, et d'autre part la criminalité organisée, sont des éléments organisateurs, constitutifs de l'histoire américaine. Il y a évidemment l'épisode du capitalisme sauvage du 19e siècle, que l'on connaît bien avec les barons voleurs, mais il y a surtout le fait que des organisations criminelles ont eu un poids dans la constitution de l'histoire politique américaine extrêmement forte. Ce que l'on voit très bien d'ailleurs dans le film de Martin Scorsese, Gangs of New York. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ce film n'a pas bien fonctionné aux États-Unis. Mais bon, la criminalité organisée, hier comme aujourd'hui, est un acteur assez important de la vie économique, sociale et politique aux États-Unis.
Et pourtant, il y a des difficultés à surmonter pour travailler sur ce sujet, ce que vous appelez le négationnisme et le complotisme.
Oui, alors, c'est évidemment un sujet difficile à travailler, d'une part parce que c'est un sujet de l'ombre, de la clandestinité, du cachet, donc avoir accès à des sources est en soi un problème, mais vous me direz que c'est le cas dans toutes les sciences sociales ou dans toutes les sciences dures, hein. Quand vous étudiez des microbes ou vous êtes dans la physique nucléaire, vous êtes aussi dans le domaine de l'invisible. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'accès aux sources. L'autre problème que vous soulevez est très important, et là on va de Caribe en Scylla. Le premier problème, c'est celui du déni du réel. Et ça a été un élément d'histoire américaine, nier que ces organisations existent, ou une fois que vous reconnaissez que ces organisations existent, relativiser leur importance ou expliquer qu'en réalité, elles ne jouent aucun rôle. Et puis l'excès inverse, c'est un excès, on va dire, pathologique, paranoïaque, une simplification de l'histoire qui voudrait trouver derrière tous les événements humains un principe organisateur unique, clandestin, un deus ex machina. Alors là, on n'est plus dans l'histoire, on est vraiment au sens pathologique du terme, dans le complotisme. Alors les complots existent dans l'histoire, hein, vous êtes vous-même historien, vous le savez, mais le fait de ne voir que des deus ex machina, c'est évidemment une simplification.
Et donc ce que vous avez cherché dans cet ouvrage, c'est proposer un éclairage criminel de l'histoire politique.
Exactement. C'est-à-dire j'ai voulu donner une lumière criminologique à l'histoire de la vie politique américaine, en partant des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai donc étudié toutes les présidences américaines de Roosevelt jusqu'à Joe Biden et Donald Trump, pour essayer de voir si dans leur émergence, dans leur ascension, ces différents présidents américains avaient connu des capillarités, des proximités, voire une forme de corruption avec la mafia italo-américaine. Pourquoi ce questionnement ? Tout simplement parce qu'il est établi depuis longtemps que la vie politique locale aux États-Unis, c'était le cas au 19e, mais c'était le cas jusqu'au milieu du 20e siècle, a été extrêmement corrompue au niveau municipal. Donc la question, que s'est-il passé à un niveau supérieur ?
Et vous allez jusqu'à écrire, le crime organisé joue un rôle de gouvernement d'appoint.
Beaucoup de bons sociologues aux États-Unis, et d'ailleurs c'était le cas pour l'histoire italienne au XXe siècle, ont parlé pour ces grandes organisations criminelles de gouvernement invisible. C'est-à-dire que ces organisations criminelles n'ont pas pour but de prendre le pouvoir. Les élections, tout ça, ça leur est indifférent. Ils souhaitent simplement être des manipulateurs en coulisses. Non pas pour faire avancer un agenda politique, mais tout simplement pour leur propre business. Et que se passe-t-il aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres ? On voit des bandits italo-américains dont la culture, la sous-culture, l'éthos est issu du mezzogiorno italien, hein, par le phénomène migratoire. On voit ces bandits italiens reconstituer aux États-Unis la mafia, une véritable organisation criminelle, mais avec un degré supplémentaire de sophistication, grâce à un certain nombre d'individus qui ont été tout simplement, je ne dirais pas des génies, mais des gens d'une extrême intelligence, Maranzano, Charlocchi Luciano, qui ont décidé de transformer la mafia italo-américaine en véritable organisation moderne, en lui demandant de s'américaniser, de prendre l'éthos d'une grande entreprise. Se débarrasser d'une vieille sous-culture de vengeance qui était contraire à l'éthos du business, pour en faire une vraie organisation extrêmement structurée, rationnelle, clandestine, avec une sociologie de société secrète, mais qui en plus emprunte le contexte de la société américaine.
Alors, nous allons parler successivement des démocrates et des républicains, mais il faut bien commencer par un des deux camps. Jean-François Guéraud, vous présentez plusieurs présidents démocrates dans leur relation avec la mafia. Prenons un exemple, Harry Truman, c'est le 33e président des États-Unis. Il est à la Maison-Blanche du 12 avril 1945 au 20 janvier 1953. Quelles sont les relations de Truman avec la mafia ?
Alors, c'est une question importante, et pour faire le lien avec ma réponse précédente, donc il faut comprendre que dans l'entre-deux-guerres, la mafia devient une vraie organisation. Elle sait déjà corrompre au niveau local, elle a déjà le contrôle d'un certain nombre de villes, en réalité, et elle se dit, mais pourquoi ne pas passer au niveau supérieur ? Car en définitive, quoi de mieux pour acheter de l'impunité que d'avoir, je vais reprendre leur expression, notre homme à la Maison-Blanche ? Et là, au début des années 30, il s'essaye une première fois avec Franklin Delano Roosevelt. C'est une relation vaste, complexe, on va passer dessus. Mais leur vraie chance arrive en effet avec Truman. Alors, il y a un contexte, il y a un double contexte pour parler de Truman. D'abord, le premier contexte, c'est un contexte politique. Vous savez, Franklin Delano Roosevelt est élu pour un quatrième mandat en 1944, mais même si les Américains ne le savent pas, parce qu'on n'est pas encore une société de totale transparence, en réalité, les initiés, et lui-même le premier, sait très bien qu'il ne terminera pas son dernier mandat. Quand il est élu en 1944, il se sait extrêmement malade. Et donc, la question de son successeur se pose, ou plus exactement, celui qui est son vice-président, celui qui sera choisi comme vice-président, sera son successeur quelques mois plus tard. On dit aux États-Unis que le vice-président est toujours à un battement de cœur du président. Voilà. Qui est son vice-président ? C'est Harry Truman. Et là, il faut revenir évidemment un petit peu en arrière. C'est le sens de votre question, là. La jeunesse d'un chef. D'où vient Harry Truman ? Alors, Harry Truman sort de la Première Guerre mondiale. Il a fait capitaine d'artillerie, il a fait une jolie guerre, c'est un homme courageux. Mais lorsqu'il revient à la vie civile, il n'a absolument pas envie d'être un homme d'affaires, un commerçant. Il n'avait aucun talent pour ça. Il décide de faire de la politique. Oui, mais voilà. Où vit-il et où fait-il de la politique ? Il vit dans le Missouri, capitale Kansas City. Et Kansas City, c'est l'une des villes les plus corrompues. C'est une des villes les plus dangereuses des États-Unis. C'est un cloaque. À l'époque, on parle beaucoup de Chicago, mais il faut savoir qu'à Kansas City, le taux d'homicide était très supérieur à celui de Chicago. Et la ville, à l'époque, est en fait tenue par deux puissances. Une puissance politique, une machine démocrate, autour de la famille Pendergast, et puis une machine criminelle, il y a une famille de la mafia italo-américaine qui est dirigée par un certain Johnny Lanzia. Et donc, Truman va s'immerger dans cette vie politique locale, il est démocrate, il va obtenir un poste de juge, mais c'est pas au juge au sens judiciaire du terme, c'est plutôt une fonction municipale, il va faire toute sa carrière dans ce cloaque, dans ce marigot. Et les Lanzia et la mafia trouvent ce garçon très, très sympathique. Pourquoi ? Parce qu'il est honnête. C'est un franc-maçon, baptiste, sympathique. Il y a un comté rural à les prendre. Ils savent très bien que lui va pouvoir le prendre. Et donc ce Truman, en toute connaissance de cause, va faire sa petite carrière politique entre les mains d'une machine politique corrompue et la mafia italo-américaine. Jusqu'au jour où, puisqu'il réussit assez bien, la machine Pendergast et la mafia italo-américaine se disent qu'il pourrait faire un très bon sénateur. Voilà. Ça, c'est la première partie. Et puis, il y a la seconde partie, hein, qui est le cœur de votre question. Lorsque Roosevelt doit choisir un vice-président pour son dernier mandat, il a décidé de se débarrasser du problème. Il est malade, il est fatigué. Et donc, il donne ce sujet au Parti démocrate. Et là, il dit au Parti démocrate, occupez-vous de cette question et demandez à Monsieur Sidney Hillman de gérer la question. Et qui est Sidney Hillman à l'époque ? C'est le plus grand syndicaliste de l'histoire des États-Unis. C'est lui qui choisit Harry Truman. Mais Sidney Hillman est lui-même un homme qui est en odeur de mafia et qui ne choisira pas par hasard Harry Truman.
La suite dans La Mafia et la Maison Blanche aux éditions Plon avec Jean-François Guéraud. On poursuit avec maintenant Un Républicain.
Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise.
Jean-François Guéraud, après les démocrates, penchons-nous sur les relations d'un président républicain avec la mafia. Que savez-vous des relations de Donald Trump avec la mafia ? Je rappelle qu'il est le 45e et le 47e président des États-Unis du 20 janvier 2017 au 20 janvier 2021 et depuis le 20 janvier 2025. Quelles sont les relations de M. Trump avec la mafia ?
Alors, avant de répondre à cette question, je vais faire deux brèves remarques. Tout d'abord, dire que aux États-Unis, même dans la presse la plus hostile à Donald Trump, l'évocation de ses liens avec la mafia italo-américaine est un sujet que l'on croise assez peu. Il y a une forme de crainte révérentielle ou de distance ou de pudeur à évoquer le sujet. Donc c'est en soi assez étrange. Bon. Deuxièmement, il faut savoir que la découverte de ces liens s'est faite dans les années 90, de façon extrêmement difficile et douloureuse. Il a fallu l'acharnement de quelques journalistes d'investigation qui ont travaillé dans une ambiance d'intimidation pour que les faits émergent. Bon. Mais que peut-on dire ? Une première chose, Donald Trump est le fils de son père. C'est-à-dire que son père était déjà un promoteur immobilier à New York. dans le béton, donc il était promoteur immobilier, il s'appelait Fred, il était promoteur immobilier dans le Queens et à Brooklyn, et Donald va tout simplement prendre sa suite, mais en décidant de devenir promoteur immobilier, là où c'est chic, là où est le vrai pouvoir, c'est-à-dire à Manhattan. Voilà. Et il devient un acteur majeur de la promotion immobilière dans les années 70-80, à l'époque où le marché du béton est totalement cartélisé par les cinq familles de la mafia italo-américaine. C'est un fait patent établi par les enquêtes judiciaires. Les mafieux appellent ça the Italian gold, l'or italien. Toute la chaîne d'un mont en aval et tous les métiers autour du béton, pas seulement la promotion, mais aussi les menuiseries, les fenêtres, etc., tout est cartélisé. C'est-à-dire que les cinq familles prélèvent un pourcentage sur absolument tout ce qui se fait à New York, et Manhattan en particulier. Or, Manhattan, ça n'est que du béton et des déchets. Ce qui provoque évidemment un surcoût. Donald Trump évolue dans cet univers en toute connaissance de cause, et il doit passer sous les fourches codines soit de sociétés de BTP détenues facialement ou par des hommes de paille, par la mafia, ou surtout par les syndicats de salariés, en odeur de mafia. On sait qu'à l'époque, à New York, nombre de syndicats de salariés, le syndicat des transporteurs, les Teamsters, le syndicat des ouvriers du béton, sont entre les mains de la mafia italo-américaine. Et donc, il fait du business dans cet univers en toute connaissance de cause. Mais Donald Trump n'est pas seulement un promoteur immobilier, c'est pas seulement l'homme du béton, il a également un reste de casino. Et non pas, alors cette fois-ci à Manhattan, dans l'État de New York, mais dans l'État juste à côté, The Garden State, dans le New Jersey, à Atlantic City. Et là aussi, enfin, personne ne l'ignorait à l'époque, et lui encore moins que d'autres, ce secteur économique est entre les mains de la mafia. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle à l'époque Atlantic City une ville ouverte, c'est-à-dire que tous les mafieux ont le droit d'y investir, mais c'est surtout la famille de Philadelphie qui y investit. Et Donald Trump va obtenir une licence pour ouvrir des hôtels casinos dans des circonstances que je raconte assez longuement, tout à fait curieuses, puisqu'il n'aurait jamais dû obtenir ces licences.
Et il fait des rencontres avec des personnages, notamment un mentor, qui sont l'occasion dans votre ouvrage d'un portrait psychologique assez étonnant du personnage.
Oui, vous avez entièrement raison. Il y a dans l'histoire de la mafia italo-américaine des personnages d'avocats mafieux. D'avocats de la mafia, mais d'avocats mafieux, c'est-à-dire d'avocats qui travaillent au profit de la mafia, des mob lawyers. Et donc celui auquel vous faites référence, c'est le fameux Roy Cohn. Il se rencontre au début des années 70, en 1973. Roy Cohn était déjà un avocat très connu, il avait eu un rôle dans la période du McCarthyisme. Et à l'époque, quand vous faites du business à Manhattan, vous passez par Roy Cohn. Et Roy Cohn est un avocat de la mafia, à tel point, je le raconte dans mon livre, qu'un certain nombre de réunions de la commission c'est l'organe de régulation, le conseil d'administration des cinq familles de New York, un certain nombre de ces réunions se déroulent dans son cabinet d'avocat, là où évidemment le FBI, du fait de l'impunité lié à ce métier d'avocat, ne peut pas travailler. Donc c'est vraiment, Roy Cohn va être, comme vous le dites, son mentor. Il va avoir d'autres avocats mafieux qui vont l'accompagner, mais celui-là va jouer un rôle tout à fait important.
Et c'est pas un ange?
Non, c'est pas un ange. Tous les portraits qui sont faits de Roy Cohn aux États-Unis le décrivent comme étant un homme diabolique, brutal. C'est lui qui va l'encourager justement à une forme de brutalisation des rapports humains. Je crois qu'on en a quelques exemples actuellement.
Alors Jean-François Guéroux, justement, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans nous interroger sur les possibles effets du début du deuxième mandat de Donald Trump sur les services de police et les services de renseignement aux États-Unis. Est-ce que la volonté de dégraisser l'État fédéral qui est mise en avant concerne aussi ces services, et est-ce que ça peut avoir un effet démocratie aux États-Unis ?
Alors, vous posez une question judicieuse à laquelle je vais répondre avec prudence. Mais il est évident qu'il y a chez cet homme, et son passé le montre, une méfiance profonde à l'égard des organes de répression et des services de renseignement. Voilà, il y a une méfiance congénitale. Et c'est ce qu'il va falloir observer. Regarder in concreto ce qu'il va faire des grandes agences fédérales que sont la CIA et le FBI, et en particulier au FBI, regarder s'il va toucher aux effectifs qui ont en charge, entre autres, la lutte contre le crime organisé.
Donc il faut un suivi factuel. Autant qu'on puisse le savoir, est-ce que les débuts de Trump 2 ont des effets sur les relations entre services de renseignement occidentaux ?
Pas pour l'instant.
Mais et avec l'Ukraine ?
Je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on prend un peu de recul, qu'on met en parallèle l'histoire des services de renseignement et l'histoire diplomatique, on voit que les deux n'ont pas forcément les mêmes temporalités. Voilà. Les services de renseignement arrivent à conserver des relations techniques et professionnelles là où il peut y avoir des évolutions dans les relations internationales.
Et vous faites bien de le rappeler, on a toujours tendance, quand on a le nez dans l'actualité, à surévaluer les ruptures. Or, en fait, les continuités sont très lourdes.
Les continuités sont en général beaucoup plus fortes que les ruptures, mais le système médiatique fait qu'on voit plus, mieux ou plus facilement les discontinuités et les ruptures.
Jean-François Guéraud, pour aller plus loin, nous pouvons d'abord lire votre ouvrage, qui est remarquablement documenté et tout à fait passionnant, à vrai dire, « La mafia et la Maison Blanche » aux éditions Plon. Outre votre livre, est-ce que vous avez quelques ressources à nous indiquer pour comprendre le phénomène des mafias aux États-Unis ou ailleurs dans le monde ?
Alors, l'essentiel de la littérature pertinente est soit en italien, soit en anglo-américain. En France, je vais me permettre de vous citer un auteur qui est Jacques de Saint-Victor, qui a écrit il y a quelques années un ouvrage remarquable aux éditions Gallimard qui s'appelle « Un pouvoir invisible » et qui vient tout juste d'être réédité en format poche aux éditions Folio sous un nouveau titre qui s'appelle « Mafia et pouvoir ». Et c'est une lecture politique de l'histoire des mafias italiennes, donc sur un siècle et demi. Et c'est un livre tout à fait passionnant, c'est un livre d'historien. Jacques de Saint-Victor est un grand historien, mais surtout un homme qui vit une bonne partie de l'année en Italie, qui parle italien, donc qui connaît de l'intérieur le système. Et ce livre nous permet d'avoir une réflexion très aboutie, justement sur la complexité des rapports ou sur les contiguïtés des rapports pouvant exister entre une superpuissance, des superpuissances criminelles et des pouvoirs politiques.
Autre référence que vous pourriez nous indiquer ?
Alors, pour les États-Unis, il faut citer les ouvrages d'un journaliste, mais aux États-Unis, la frontière entre le journalisme, le très bon journalisme et l'histoire est souvent floue. Ce sont les ouvrages du journaliste Gus Russo, voilà, à qui on doit en particulier un très grand livre sur l'histoire de la famille de Chicago, The Outfit. Et l'ouvrage s'appelle tout simplement The Outfit.
Et dans le domaine du cinéma, est-ce qu'il y a des choses à prendre ?
Alors là, c'est une question piège. Il y a beaucoup à dire sur les relations entre cinéma et mafia.
C'est pourquoi je viens vous chercher là-dessus.
Oui, mais c'est un sujet passionnant, qui sera en partie l'objet d'ailleurs de mon prochain ouvrage. Alors, on peut faire une remarque sur l'histoire de la représentation de la mafia au cinéma, qui est la suivante. Les Américains inventent dans les années 30 un nouveau genre cinématographique qui est le film de gangster. Voilà. Avant, le grand film, le grand genre, c'était le western. Mais le western, c'était le monde des vachers et de l'horizontal. Avec le cinéma de gangster, on a le monde de la verticalité, les villes, avec une nouvelle figure violente qui n'est plus le vacher, le cow-boy, mais qui est le gangster. Donc il y a ce nouveau genre qui apparaît. Et c'est un genre qui parle sans parler de la mafia. C'est-à-dire qu'il est souvent, il est question de gangsters, souvent des gangsters avec des noms qui se terminent par des voyelles. Hein. Il y a quelques grands films, en l'occurrence, mais on ne prononce jamais le mot de mafia, ni de Cosa Nostra. Donc il y a une forme de distance et de pudeur sémantique. Alors évidemment, certains films sont explicites. Si vous prenez le très grand film Scarface, c'est une référence à Al Capone. Bon, mais on va dire pendant 60 ans, à peu près 60 ans, Hollywood parle de la mafia sans jamais prononcer le mot. Tout change à partir de la fin des années 60, début des années 70, où Hollywood commence à parler de la mafia en utilisant le mot, mais de très loin, très difficilement. Et le tournant, et là il nous faudrait une heure pour en parler, c'est évidemment en 71, le tournage du Parrain de Coppola.
Notamment parce que la mafia donne en quelque sorte des conseils.
Alors, oui, d'abord, elle s'oppose dans un premier temps au tournage de films, et puis ensuite, elle va imposer ses conditions. Et sa première condition, qui va être respectée, c'est que le mot « mafia ou Cosa Nostra » ne soit jamais utilisé dans le film.
Merci, Jean-François Guéraud. Un grand merci également à notre réalisateur, Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Jean-François Guéraud, commissaire général de la police nationale, auteur de « La mafia et la Maison Blanche » aux éditions Plomb. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.